Radio Parenthèse. Vous saviez qu'elle s'appelait comme ça?
On peut dire RDP.
RDP.
Radio Parenthèse.
Et le D, c'est pourquoi?
Radio.
En fait, le R, c'est de rat et D de duo et P de parenthèse.
La règle.
Personne ne se coupe quand on parle. Chacun a son temps de parole. Et avant de parler, on attend que l'autre ait fini.
Voilà, super.
Et on doit faire aussi un signe.
Bonjour, bienvenue. On peut rentrer parce qu'il fait frais. Hello.
Allez-y, allez-y.
Bonjour, hello. Bienvenue.
Merci.
Et tous les quatre sont là? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène ce matin?
C'est eux, hein, en vrai.
Si ça ne tenait qu'à nous, on serait pas là. Peut-être. Non. Vous êtes déjà rentré dans une librairie d'occasion comme ça?
Pêle-mêle.
Oui.
Pêle-mêle, ouais. Ouais. Mais c'est la plus grosse à Bruxelles. Hein. Ouais. En cherchant des trucs précis? Ou c'était pour l'école ou de devoir?
Pour l'école, pour l'école.
Et pour vous?
Non, jamais.
Moi, personnellement. Ouais. Oui. Certains livres.
Bah ouais, bah c'est une bonne maladie, hein. Enfin, moi, c'est ça qui m'a amené ici, en fait. C'était une bouquinerie dans laquelle je venais quand j'étais gamin. Ben, quand je dis gamin, à partir de mes 12 ans, quoi. Ils ont ouvert en 92, donc ça... Moi, j'avais 12 ans. Et c'était le seul endroit où mes parents... Enfin, j'étais mordu de bouquins, déjà à cet âge-là. Et c'était le seul endroit où mes parents acceptaient de financer des bouquins. Parce que c'était la seule bouquinerie d'occasion qu'il y avait dans le coin. Et puis voilà, après un an ou deux ans, c'est comme si j'avais épuisé la liste mentale des auteurs que je connaissais un petit peu, où je me disais, tiens, ça a l'air d'être bien. Et j'ai commencé à poser des questions au gars et à sa belle-fille qui tenait la boutique. Et puis je me suis retrouvé à lire des tas de trucs dont j'ignorais tout, mais qui étaient un peu... Enfin, en gros, j'arrivais avec 5 euros ou 10 euros, je disais, je sais pas quoi lire, si vous avez des idées, c'est très bien. Et puis je partais avec 2, 3, 5 bouquins. Et puis quand la belle-fille, Nathalie, a décidé d'arrêter de bosser avec son beau-père comme ça en 2003, moi j'avais 23 ans. Et Philippe m'a proposé de travailler avec lui comme job d'étudiant. Et puis après 6 mois, j'étais à temps plein avec lui, je faisais les achats ici pour le magasin tout. Et puis lui, il allait avoir 70 ans. Et il m'a dit, écoute mon grand, tout ça c'est bel et bon, mais moi je vais pas continuer pendant 30 ans encore. Si tu veux reprendre, ça coûte autant. J'avais pas un bal, j'étais voir des banquiers, ils m'ont dit, comme ça. Et puis un an après, j'ai une grand-mère qui est décédée, et j'ai pu avoir un peu de thunes, comme une espèce d'avance sur héritage, donc j'ai pas dû attendre que mes parents meurent pour toucher une partie de mon héritage, mais ils ont fait ça. Et ça m'a permis d'aller revoir les banquiers en disant, mais voilà, ce coup-ci j'ai un peu de thunes de sécurité, comme ça et tout, tac. Et puis là j'ai pu faire le truc. Et donc j'ai repris, je suis devenu chef de ce machin-ci en 2006. Ouais, j'allais avoir 27 ans, j'avais 26 ans.
Et vous arrivez à gagner votre vie avec...
C'est mon seul job, ouais. C'est un temps plein. J'ai une collaboratrice qui travaille à mi-temps. Enfin, j'ai toujours travaillé avec une personne à côté parce que sinon, c'est vraiment trop lourd, quoi. C'est ouvert 6 jours semaine, donc ça fait 50 heures de taf, plus les visites à domicile, les choses et tout, donc ça fait un peu lourd. Et ouais, j'en vis. Bon, je gagne pas 6000 euros par mois, mais c'est pas ce qui m'intéresse non plus.
Oh, top, top.
Pour moi, c'est très cool, ouais. Je dois pas monter... 3 marches à l'intérieur de moi-même quand j'arrive ici au magasin. Je dois pas mettre un masque quand je pousse la porte. C'est gay, j'écoute la musique que je veux, le lieu ressemble à ce que je veux. C'est mes pantoufles à moi, quoi. Avant, c'était les pantoufles de quelqu'un d'autre dans lesquelles j'avais mis mes pieds, que j'adorais. Et ici, c'est mes pantoufles à moi et la boutique s'est pas cassée la gueule. Donc, ouais, maintenant, ça rajoute une toute petite dose de fierté en plus au fait de faire ce travail ici, quoi.
Et vous avez combien de clients, à peu près, chaque jour?
Je sais pas, 30, 40, 50, oh. C'est rien. Ça ici, dans c'est les bacs ici, c'est un... C'est le fichier des cartes de fidélité qu'on garde ici au nom des gens, et il y en a 4000.
Ah oui, quand même.
À la grosse louche, il y a à peu près 10 000 livres qui rentrent par an, et 10 000 livres qui sortent.
Quand même.
Un petit billet. Et vous vendez quoi comme livre ici?
C'est que des bouquins d'occasion. J'ai des bouquins dans tous les domaines, dans tous les genres, en français et en anglais. Donc il y a aussi bien, il y a de la littérature jeunesse, il y a des livres d'histoire, il y a du roman, il y a de la philo, il y a de la poésie, il y a de la sémiologie, il y a de... Enfin, plein de choses, quoi. Je peux vous faire le tour après pour si ça vous intéresse. Pour
savoir, c'est Lupin.
Ouais, j'en ai, ouais. Du Maurice Leblanc. Bah, il est chouette, hein, Lupin. La semaine dernière, il y a une classe de l'INRASTI qui est venue ici. Ils étaient une quinzaine. C'était leur prof de français qui les avait ramenés jusqu'ici. Et le deal, c'était qu'ils achetaient, ils choisissaient les bouquins qu'ils voulaient pour la bibliothèque de l'école. Ils avaient un petit budget comme ça, chacun, enfin de 10 balles. Donc avec ça, les poches ici, ils coûtent 3 euros. Donc avec 10 euros, il y a déjà moyen de faire quelque chose. Et ils ont tous choisi un bouquin. Et il y a un des gars qui a choisi, il a pris 4 livres de...
La vie des rayons, quoi.
Il y avait les œuvres complètes de Maurice Leblanc, 14 volumes comme ça. Il est parti avec. Voilà. Il a appelé sa mère et sa mère lui dit, ouais, d'accord.
D'accord.
Et vous sélectionnez comment les livres qu'on vous donne ?
Je sais pas trop comment. Enfin, je sélectionne en fonction de ce que je connais de la littérature, de ce que moi j'ai lu, de ce que je me dis qu'il va être vendu, enfin, de ce que je me dis que j'ai une chance de vendre ou pas vendre. Au-delà du fait que c'est une librairie, c'est quand même aussi un commerce, quoi. Donc s'il y a pas de thune du tout à la fin du mois, ben, je sais pas payer le loyer.
Et vous regardez l'état du livre quand même ?
La plupart du temps, oui. Mais disons, un bouquin que je suis à peu près certain de vendre, un bouquin qu'on vient me proposer souvent et qu'on vient me demander souvent, si on me le propose en mauvais état, je vais pas le prendre. Si par contre c'est un texte que je vois super rarement et que je sais qu'il est intéressant, si le livre il a été annoté du début à la fin, je prends. Ou si une couverture qui manque et tout, on la retape, ce genre de truc. Parce que les bouquins, c'est intéressant qu'à partir du moment où c'est un... où ils portent quelque chose en eux, quoi. Et où ça a une chance de parler à un lecteur ou à une lectrice.
C'est quoi votre livre préféré à vous ?
J'en ai plusieurs, ça dépend un peu des jours quand même, à force. Ouais. Moi j'ai plutôt des auteurs préférés que des textes.
Préférés. Comme qui par exemple ?
Un vieux grec qui s'appelle Nikos Kazantzaki, un allemand qui s'appelle Sebald, Homer, le type qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. C'est un auteur qui n'existe pas, quoi. C'est un texte qui a été écrit il y a 2800 ans et qui est trop bien. Une femme belge qui s'appelle Madeleine Lee qui a écrit juste deux livres, mais c'est trop bien. Un poète portugais qui s'appelle Fernando Pessoa, Henri Miller, un écrivain américain du 20e, Leopardi, un poète italien du 18e siècle, Franquin. C'est de la BD, mais c'est un écrivain aussi.
S'il vous plaît, vous dans livrer un livre, si vous aimez, qu'un livre vous plaise.
C'est une bonne question. Ça dépend un peu des textes. Il faut d'abord que ça me plaise. Donc, au-delà du fait que ce soit bien ou pas bien, de façon absolue, il faut que ça me plaise. Et ça, c'est que l'expérience, quoi. Enfin, c'est l'expérience ou le fait d'en avoir lu des trucs. Mais sur le fond, c'est le voyage. Quand je lis et que j'ai bon, ça veut dire que je suis en train de faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Et dans ma tête, en plus. Une analogie que j'utilise souvent, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien faire du ski, mais ils font du ski parce qu'ils aiment bien faire du ski. Si ça me défrise et que ça me fait des vacances, c'est une bonne base, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver peu importe la forme, quoi. C'est comme avec la musique, c'est la même chose, hein. Pourquoi un nous plaît dans un genre et pas un autre qui fait dans le même genre et tout, c'est le grain de la voix. La première chanson qu'on a entendue qui se dit que, on se dit, ah ben tiens, si celle-là, elle me plaît, si elle se trouve, il y a des choses intéressantes à trouver dans les autres. Le rythme, le fait qu'on puisse danser dessus ou pas danser dessus, enfin, il y a plein de raisons. Et un chanteur, une chanteuse n'est pas l'autre. Même quand c'est dans le même genre, et c'est pour la littérature, c'est un peu à mon sens, c'est le même bazar, quoi.
Vous gagnez combien par mois ?
Pour l'instant, c'est un peu raide, c'est plutôt 2000-2002. Des fois, ça a été plus, des fois, ça a été moins. Mais pour l'instant, c'est comme ça.
C'est quoi le plus grand nombre que vous avez gagné par mois ?
Peut-être 3 500 ou 4 000, une fois ou l'autre. Mais vraiment, genre, si c'était un gros mois, un truc comme ça. C'est une des dimensions de la vie. J'en vivrais pas, je serais malheureux. Si à la fin de la première semaine du mois, j'étais obligé de regarder mon compte en banque pour savoir, tiens, est-ce que je peux dépenser 100 balles ou 50 balles et tout, bah, je serais comme n'importe qui. Ça m'arrive d'avoir des mois qui sont comme ça. C'est aussi un truc un peu circonstanciel. Hein. Il y a eu un truc qui est passé qui s'appelle Covid. Ça a quand même bougé des lignes. Et puis après, il y a eu un truc qui s'appelle guerre en Ukraine et puis inflation. Enfin, tous ceux qui payent des factures, ils ont toutes leurs charges ont monté de 20%. Donc ça veut dire que tout ça sort de la thune qu'on peut dépenser en allant pour aller au restaurant ou pour se payer un billet de concert ou un truc comme ça.
Et ça vous est arrivé d'augmenter le prix des livres en fonction du loyer, enfin du prix du loyer ?
C'est pas en voyant que tout augmente que j'ai été faire le tour des rayons pour augmenter les prix. De un, j'aime bien que le magasin soit relativement économique, ça coûte pas trop cher quand on vient de l'extérieur et qu'on veut trouver un bouquin. Ça j'aime bien. Mais de deux, effectivement maintenant, confronté à un truc économique qui est un peu plus raide, un peu plus serré, effectivement, un poche qu'avant, qu'il y a 5 ans ou 8 ans, je pouvais mettre peut-être à 2,50€ ou 2,80€, il sera peut-être à 3,30€ ou à 3,50€. Comme ça, donc ça fait 20% d'augmentation, c'est beaucoup, mais ça reste des petits prix, quoi.
Et vous choisissez le prix des livres en fonction de quoi ?
Je m'arrange pour les vendre à la moitié du prix neuf.
Ok.
Moi, j'augmente un peu mes prix, par exemple, des formats poche, mais il y a 10 ans, on pouvait trouver en livre neuf des livres format poche à 6€ ou 7€. Maintenant, ils sont tous à 8, 9. Mais de façon générale, je m'arrange pour être à la moitié du prix neuf. Un peu en dessous, si je peux. Puis ça dépend aussi un peu de mon prix d'achat. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient me vendre 4 livres, je vais les acheter proportionnellement un peu plus cher à la pièce que si quelqu'un vient me proposer 400 livres. Parce que ça fait au final des montants plus importants. Enfin, bon, voilà. Donc ça dépend un peu de ça aussi, quoi.
Ok. Vous proposez des jobs étudiants ?
J'ai une collaboratrice qui est engagée en CDI, comme ça, et qui travaille à mi-temps. Et on s'arrange pour travailler qu'à deux. J'engage pas d'étudiants, essentiellement parce que dans un lieu comme ceci, il n'y a rien de très super compliqué, mais il y a plein de micro-détails à connaître. Et puis avant, le plaisir de faire ça, c'est d'être à l'aise ici derrière le comptoir, dans ma position, quoi. Donc, enfin, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des... Il y a eu deux filles et un garçon, mais ça remonte à une quinzaine d'années quand j'ai commencé, qui étaient étudiants. Et ils sont restés quelques mois, et c'est qu'au moment où ils sont partis qu'ils commençaient à être vraiment à l'aise. Ouais, donc moi, le temps que ça me prenait moi de tout expliquer qu'en plus, le garçon, l'étudiant ou l'étudiante se sentent vraiment à l'aise et se disent « Bon, non seulement ça fait un peu de sous, mais en plus c'est agréable à faire », ça prenait trop longtemps. Donc depuis lors, je préfère travailler avec des gens qui restent plus longtemps, jusqu'au moment où ils décident d'arrêter quand ils trouvent un temps plein ailleurs ou qui décident de changer de quartier ou de ville, enfin comme c'est déjà arrivé. La personne la plus frappante avec laquelle j'ai bossé, c'était une jeune fille qui avait 17 ans, 18 ans. Je l'ai vue dans le magasin, elle passait une fois par mois ou deux fois par mois. Elle achetait toujours des bouquins que je trouvais tout à fait super intéressants, des livres d'auteurs soit qui m'avaient plu, des textes qui m'avait marqué moi, et donc je me suis, dans ma tête, ça voulait dire qu'elle avait bon goût, mais elle a pas bon goût, c'est juste qu'elle a le même goût que moi. Et puis je travaillais avec un pote qui est parti faire autre chose, et puis donc là j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, et puis elle m'a posé la question de savoir, tiens, est-ce que vous cherchez pas quelqu'un pour travailler? On a commencé à papoter. La première question que je lui ai posée, je crois, c'était, mais j'ai quand même vu le type de livres que t'achètes et les textes et les auteurs qui t'intéressent. T'étudies quoi à l'université? Tu sais quoi tes études? Parce que dans ma tête, elle lisait pour l'UNIF. Elle m'a dit, bah en fait, moi j'ai arrêté l'école à 14 ans, sauf que les bouquins, ça m'intéresse à fond. Le fait qu'elle ait arrêté l'école à 14 ans, qu'elle lise ce qu'elle lisait, parce que c'était pas des trucs très faciles, c'était des trucs un peu sérieux, voire un peu complexes, je me suis dit, elle est mordue par les bouquins, on va très bien s'entendre. Et puis je l'ai engagée, elle a travaillé avec moi pendant 4 ans. Et puis, donc j'ai pas engagé une étudiante, si tu veux, ou j'engage pas des gens parce qu'ils sont étudiants, mais le fait d'avoir une relation de soi à soi, au texte ou à la lecture en tout cas, ça me parle. Ouais. Il y a une grosse étiquette intello ici sur un lieu comme ça, mais je m'en fiche un peu que les gens avec lesquels je travaille soient des intellos ou soient des grands lecteurs ou des grandes lectrices. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un avec lequel je m'entends.
Ah ouais, puisque moi j'aurais été intéressée de travailler. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais,
mais... C'est une bonne question, mais voilà, pour l'instant, dans tous les cas, il y a quand même cette dimension de pouvoir travailler avec quelqu'un sur un temps long.
Vous avez une passion après les livres?
J'aime pas beaucoup le mot passion, en fait. Parce que passion, dans ma tête, c'est un truc qui nous saisit complètement et qui fait qu'on peut pas faire autrement que faire le truc. Je trouve que c'est trop fort pour moi. Le truc idéal qui me sert de contrepoint, c'est être seul en bagnole pendant quelques jours en Italie. Je fais ça, quand j'ai de la chance, je fais ça une fois par an. D'être solo sur des toutes petites routes, dans des coins perdus, puis après, je sais pas, prendre le soleil, faire du vélo.
C'est quoi le livre que vous voudriez lire, mais que vous...
Un truc que je sais qui existe, mais que j'ai pas encore lu et que je me dis que je voudrais lire. C'est la seconde moitié d'un poème épique écrit par un gaucho, vous voyez ce que c'est? C'est le nom argentin pour les cow-boys. Et c'est un poème, c'est un poème qui fait une centaine de pages, un truc comme ça. Donc j'ai su que ça existait, j'ai retourné internet pour en trouver, et j'ai trouvé qu'un éditeur dans le sud-ouest de la France, mais c'était l'an dernier, à Toulouse, un tout petit éditeur de Toulouse, je les ai appelés, et ils m'ont dit, bah oui, on a fait traduire, mais on a fait traduire que la première moitié. Donc je me suis fait livrer ça, et voilà, j'aimerais bien lire la deuxième moitié du poème, parce que j'ai pas la fin, comme ça. Mais là, ça n'a pas été traduit, et mon espagnol est pas assez bon, ou mon argentin est pas assez bon pour le faire. Je fonctionne souvent plutôt dans l'autre sens, plutôt que de chercher des choses que je me dis ça, je veux absolument lire. Je trouve plutôt en général à lire sur ce que je vois passer ici.
Ouais, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Ça vous dérange pas, vous pouvez faire un petit tour ici.
Petit tour du magasin.
Je commence par ici, la description de la boutique. Dans cette pièce-ci, c'est tout ce qu'on a comme roman en français. Sur la grande paroi là, c'est tout ce qu'on a comme roman en format poche. C'est classé par ordre alphabétique d'auteur et puis par colonne. La logique des colonnes, ça fonctionne pour toute la boutique. Il faut savoir que dans le magasin, il y a plus que 20 000 livres, mais il n'y a pas deux fois le même livre. Donc tous les textes sont différents. Donc il y a 20 000 titres et tout ça pour dire que les classements sont super précis. Si c'est pas au bon endroit, c'est qu'il n'y a pas. Et ça, c'est ma collègue et moi qui faisons comme ça. Donc là, c'est du roman format poche. Sur la paroi ici, c'est tout du... Enfin, autour de moi. C'est tout du roman en format pas poche, en français, classé par auteur, mais aussi en fonction de la langue du texte d'origine. Donc, vous voyez peut-être là-bas, il y a écrit en noir sur rouge, la littérature française. C'est tous les français classés par bons hommes et bonnes dames. Et puis ça reprend là-bas en haut, boum, jusqu'en bas. Et puis, il y a l'intercalaire allemand, donc traduit de l'allemand, classé par auteur, de l'arabe, du chinois, du danois, les langues par ordre alphabétique, comme ça. Là-bas, il y a du roman policier, il y a de la science-fiction, il y a quelques petites collections, il y a des correspondances, il y a des mémoires, il y a des journaux. Et puis
c'est
après.
Grand.
Bah ouais, il y a 7000 livres là-bas, et puis le reste se développe ici. Et puis à partir d'ici, c'est organisé unité de sens par paroi. Tout ce qui est poésie, essai sur la littérature et théâtre se trouve là avec des classements. Tout ce qui est beaux-arts, de la musique à la photo en passant par l'archi, les arts plastiques, les trucs, tout ça, c'est ici. Avec chaque fois, et il y a des tas d'intercalaires de magnifiques comme ça, pouf, très pratiques, qui donnent toutes les indications, qui est sciences humaines, psycho, anthropo, philo, histoire des religions, spiritualité, trouve là, avec des tas de classements. Tout ce qui est BD est ici, tout ce qui est animaux, livres sur les livres, cuisine, et puis dans les boîtes, c'est l'érotisme. Tout ce qui est littérature jeunesse se trouve là, histoire et politique, avec des tas de classements précis, un dessin de mon fils. Et puis tout ce qui est la seule littérature qui est punie, qui n'est pas dans la première pièce, c'est la littérature belge, donc eux ils sont là. Il y a une colonne Belgique et des tas d'histoires de Belgique. Récits de voyage, livres sur les pays et les cultures, sciences de la nature, donc ça va de la philosophie des sciences à la géologie. Cartes routières, parce que des fois, voilà, c'est souvent des peintres ou des qui viennent m'en chercher, qui travaillent dessus. Tout ce qui est plantes, jardins, écologie se trouve là. Et ici dans la pièce, c'est tout en anglais.
Moi, j'ai
sauf la colonne.
Quelques livres en anglais, Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Il est bien Stevenson.
Ouais.
Ouais, c'est cool. L'île au trésor aussi.
Ouais, je vais voir. Mais ouais, il est hyper intéressant le livre.
Bah, c'est un drôle de bouquin et ça remonte un peu.
Sur la schizophrénie.
Ouais, une espèce de double personnalité comme ça. Ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi schizophrénie?
C'est plus personnalités.
C'est quand t'as
un dédoublement de personnalité.
Un dédoublement de personnalité, comme t'as deux voix dans ta tête qui parlent parfois séparées ou parfois ensemble.
Est-ce qui est schizophrène?
Non, on parle d'un livre en anglais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Qui est l'histoire d'un type qui est une chose à des moments et un peu l'opposé, voire tout à fait l'opposé à d'autres moments. Et, mais c'est un bouquin qui a 150 ans, là. Donc c'était avant toute la psychiatrie, psychologie de maintenant, comme ça et tout, mais c'était là, ouais.
Ah, il est intéressant.
Ouais, bah ça fait à peu près le tour. J'ai fait un plan de la boutique aussi.
Vous avez des petits post-it aussi un peu partout, enfin des petits trucs comme ça.
D'après la majorité des gens, ce n'est clair que pour moi, ces indications-là. Ça veut dire que c'est pas clair
ah
du tout.
Ah oui, pourtant, c'est assez clair.
Allez, il y a trois quarts des gens qui rentrent et qui font leur vie tout de suite, et puis il y a un quart qui demande comment s'organiser, qui cherche un truc, tout.
Merci. Oui, merci beaucoup.
Je t'en prie, Nicolas.
Merci. À la prochaine.
Dernier mot.
Mot.
D'accord.
Merci à vous.
Je vous en prie.
Bonne journée à vous.
Bonne suite. Ouais.
Au revoir. Merci beaucoup.